Live présente Frank le dédomiseur.
Le dédomiseur. Frank le dédomiseur.
Dédomise-toi, Elkanin. Frank le dédomiseur.
Frank, comment ça va, mon Frank?
Ça va très bien, vous autres.
Très bien. Yes. Et tu fais partie de cet automne littéraire avec les nouvelles sorties littéraires. Et ben, tu lances ton nouveau livre. Est-ce qu'on peut le dire en collaboration avec Jean-François Caron?
C'est la préface
de Jean-François Caron?
Oui, c'est Jean-François Caron, de le prof Caron, que les auditeurs connaissent bien, qui était assez gentil pour faire la préface du bouquin. Je lui ai demandé, puis il s'est exécuté très rapidement. Je vais le payer en roubles éventuellement. parce que c'est la monnaie d'office pour le rejoindre. Non, c'est ça, il a été assez gentil pour préfacer le bouquin. Puis oui, il a contribué d'une certaine manière, parce que beaucoup avec lui, j'ai discuté des thématiques qui seront abordées là-dedans, mais je ne sais pas si dans la rentrée littéraire, ça va faire partie des lectures du premier ministre du Québec. Là,
est-ce que tu seras reçu également sur les petits plateaux de Montréal? Essai sur la fabrique du conformisme.
Oui, bien écoute, c'est un livre qui, en fait, l'idée, l'élément vraiment déclencheur de ce livre-là, c'est l'élection de Carney, mais je te dirais que ça travaillait dans ma tête un peu avant ça. Tu sais, pendant la pandémie, toutes les phrases qu'on entendait, là, on construit l'avion en vol, qui aurait fait mieux, tu retardes le groupe. Puis là, tu sais, ça m'obsédait un peu. Je me disais, mais pourquoi les gens répètent ces phrases à Saint-Saëns-là comme si ça venait d'eux autres? En réalité, c'est qui?
Arrête de parler du tramway, Morin, on va l'avoir, c'est fait.
Ouais, c'est ça. Puis avant ça, t'as eu d'autres. Tu sais, c'était quoi la phrase typique qu'on entendait du temps de Régis Labeaume? Il nous a mis sur la map.
J'étais là, mais je l'avais oublié, celle-là.
Là, j'étais là, pourquoi on entend ces phrases-là tout le temps?
T'sais, Montréal, ça là, on en a besoin.
Oui, c'est ça. Eux autres, ils l'ont. Si on n'a pas l'argent, il va aller ailleurs.
Oui.
C'est ce genre de slogans-là, un peu, qui reviennent tout le temps. D'une certaine manière, la dernière élection de Carney était comme une parodie de ça, presque, là, avec « Elle beaux up »,« Il a un beau CV », puis toutes ces phrases à Saint-Saëns-là, je me disais, mais il y a des gens qui les répètent pour vrai. Là. Moi, je rencontrais des gens qui me disaient, « Ouais, mais écoute, ouais, Poilievre, mais l'autre, t'as-tu vu le CV? » Là, j'étais là, mais c'est pas vrai. Là. Ils me répètent pas ça pour vrai. T'sais, là, c'était au bulletin de nouvelles, ça revient. Fait que je me suis
fabrication.
C'est de la fabrication. Fait que je me suis mis à creuser cette question-là en me disant, il y a certainement des gens qui ont écrit là-dessus. Puis finalement, je me suis dit, les comportements conformistes, dans le fond, pourquoi on se met à imiter les autres dans la société? Mais ça a été étudié par de nombreux auteurs, des psys, des sociologues, tout ça. Donc, je me suis mis à lire. Puis à un moment donné, j'avais tellement de trucs, j'ai dit, je vais faire un genre de synthèse qui est axée, oui, sur notre vie au Québec et au Canada, mais qui, je pense, vaut pour le reste, parce que je parle beaucoup de politique américaine là-dedans. Puis c'est ça, en gros, j'essaie d'expliquer pourquoi on en arrive dans une société, à un moment donné, à être comme un ensemble de perroquets. Mais en fait, c'est ça l'idée du livre, la fameuse figure du NPC, le non-player character, bon, qui est basé sur dans les jeux vidéo. Quand vous jouez dans un jeu vidéo, un first player game, ben toutes les ennemis que vous avez dans le jeu vidéo, ce sont des non-player characters. Ben, c'est un peu ça l'idée. C'est qu'on a l'impression à un moment donné que tu es entouré de gens qui sont des non-player characters, qui sont des gens qui répètent des phrases comme s'il y avait un script qui leur avait été implanté dans le cerveau par toutes sortes de procédés que j'explique dans le livre. Donc, je parle du rôle des médias, je parle du rôle des institutions comme l'école dans la transmission de valeurs. Je parle, par exemple, d'exemples très concrets. Je dis dans le livre que c'est facile, quand tu rencontres quelqu'un, de deviner son âge si tu parles de religion, parce que tu vas savoir exactement si la personne a eu un cours comme c'était mon cas. Moi, je fais partie des derniers qui ont eu enseignement religieux. La génération juste après, qui ont eu éthique et culture religieuse, c'est facile de savoir qu'ils l'ont eu parce qu'ils ont tous la même vision de les religions sont des vecteurs de paix et d'amour, toutes pareilles.
Le relativisme religieux.
Le relativisme religieux et culturel,
la lapidation en Afghanistan. Ouais, mais c'est eux autres, c'est leur culture. C'est au lieu de dire le mal, la définition du mal, c'est oui, le mal existe, en fait, le bien et le mal existent, mais le relativisme religieux va mettre tout le monde sur le même pied d'égalité.
Exact. Et là, ben, la nouvelle mode, c'est quoi? C'est un peu ce que j'explique dans le bouquin. C'est que là, maintenant, on a supprimé ce cours-là pour le remplacer par l'espèce de cours sur la citoyenneté. Et vous allez voir, dans quelques années, vous allez être capable de savoir exactement qui a eu ce cours-là, parce que c'est un espèce de mélange d'initiation à l'inclusion, de la différence, slash valeur québécoise. Là. Puis vous allez voir ça très bien. À un moment donné, vous allez vous rendre compte que ça a été incrusté, implanté dans les
écoles.
Et bon, ça colle pas sur tout le monde, évidemment. C'est ce que j'explique dans le livre. Faut pas être trop caricatural. T'as toujours une partie 20, 30, 40 %, ça, c'est étudié dans des études, que des gens, que peu importe ce que tu leur dis, ça rentre d'une oreille, ça sort par l'autre. Mais néanmoins, puis c'était ce qu'on voyait dans l'élection, oui, t'as des gens qui regardaient ça en se disant, voyons, c'est ridicule, cette campagne électorale-là. Mais il y avait quand même ces gens-là qu'on voyait dans les files d'attente, qui se levaient les coudes, qui dansaient, puis qui disaient, qui répétaient l'autre phrase aussi qu'on entendait, c'était Poilievre, c'est un mini Trump. Et ça, j'ai entendu over and over and over. Ben, ces phrases-là, ce sont des slogans, ce sont des armes, si tu veux, de manipulation par le discours. Puis c'est important de comprendre d'où ça vient. C'est important d'analyser ces phénomènes-là. Puis ce que j'explique dans le livre aussi, c'est que c'est pas typique à une famille politique. Là. Toutes les familles politiques utilisent ce genre de slogan-là, ce genre de mécanique-là pour véhiculer un discours. Puis j'explique même que dans le livre que celui qui a le mieux compris ça le plus rapidement, c'est Trump, avec tous des slogans de trois mots: build the wall, drain the swamp. Tous ces mots-là qui ont été utilisés, c'était pour but de créer des images chocs qui restent dans l'électorat, et même quelqu'un qui comprend plus ou moins la politique est capable de avoir un slogan imprimé dans sa tête qui peut répéter, ben c'était ça. Elbows up, c'est ça. C'est exactement ce que c'est. Donc, c'est un peu le gros paradoxe aussi de cette élection-là, qu'elle se voulait anti-américaine, mais en reprenant une mécanique, justement, de propagande électorale qui était essentiellement américaine, là, des slogans très courts, très imagé, avec des publicités, avec des acteurs dedans. Donc, tout ça était très, très américain. Fait que c'est ce que j'explique dans le bouquin. Je pense que ça peut amener une bonne réflexion. J'espère que ça va intéresser
bon.
les auditeurs.
Je vais te lancer sur des éléments de la table des matières. J'aimerais ça, oui, que tu élabores. Il y a deux, trois éléments que je trouve très intéressants. J'aimerais ça que tu élabores sur le virtue signaling. Qu'est-ce, oui, que c'est pour les gens qui ne sont pas au courant? Donc, ouais, l'affichage de vertu, en quoi c'est important pour certaines personnes et en quoi ça vient influer sur le psyché social?
Oui, mais c'est ça. Il y a toutes sortes de termes, comme tu dis, qui sont abordés dans le bouquin. Le virtual signaling, c'est quelque chose qui est assez important parce que, justement, dans le fait que des comportements, justement, se multiplient dans la société, le virtue signaling est un des vecteurs qui fait en sorte que tu vas voir un comportement se répéter. Tu sais, les fameux, justement, « Je suis Charlie Black Lives Matter », ce genre de... Pourquoi ça devient, à un moment donné, des mouvements sociaux? C'est que plusieurs personnes, par les réseaux sociaux, par les médias, par tout ce que tu veux, se sentent le besoin, moralement, d'afficher qu'ils sont des bonnes personnes. Et donc, comme ils se sentent le besoin d'afficher qu'ils sont des bonnes personnes, ils souscrivent à différentes causes à des moments donnés. Donc, c'est ça. Je suis Charlie, je suis Black Lives Matter, Me Too, hashtag Me Too, ce genre de choses-là. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça crée des effets comme en cascade, un effet boule de neige, si tu veux. Puis ça fait en sorte qu'à un moment donné, on a l'impression qu'une opinion est répandue à l'intégralité de la société, même si des fois, c'est pas vrai. Et je donne des exemples dans le livre. Je dis, si vous regardez à peu près toutes les séances d'information du gouvernement fédéral, si vous regardez toutes les grandes organisations, même le Canadien a fait ça, on souscrit pratiquement systématiquement à des cérémonies où on dit, maintenant, on annonce qu'on est sur... On reconnaît qu'on est sur des territoires non cédés à Benakis ou Mohawk, peu importe, selon la place où on est. Par contre, si tu fais un sondage... Les Canadiens sont majoritairement en désaccord avec ces affirmations-là. Pourtant, ça n'empêche pas à peu près toutes les institutions de le faire, toutes les gens qui veulent bien paraître sur les réseaux sociaux, puis également même le roi. Je vous rappellerai que le roi est venu même au Canada prononcer le discours du trône et on lui a fait dire qu'il était sur une terre non cédée. Je ne sais pas si les gens réalisent, là, c'est la monarchie des terres non cédées. Et donc, le virtue signaling est un élément central
très bon
dans la prolifération de comportement et d'attitude qui, après ça, que justement, vous pouvez... Tu sais, si on reprend l'exemple de la pandémie, je vais conclure là-dessus, le fait que des gens faisaient prenaient des photos avec la seringue dans le bras, avec écrit genre...
Très bon.
Message à ceux qui retardent le groupe. Ben, oui. C'était des mouvances de virtue signaling qui visaient à promouvoir des idées très précises puis même des comportements précis. Non?
Et c'est pour mettre sur les talons ceux qui n'adoptent pas ça. C'est-à-dire, moi, je suis dans le camp du bien, et si tu n'as pas adopté un comportement similaire à ce que je fais, à ce moment-là, pose-toi des questions. Il y a de la culpabilisation là-dedans. Là. Ça vise à ostraciser un clan. C'est toi, tu n'es pas vacciné. C'est pour ça les questions. Donc, c'est l'envers de la médaille. Autres éléments intéressants là-dedans, la banalité du mal.
Oui.
C'est chapitre 4, paragraphe 19. Anna Arendt, je la connais pas du tout. Je connais tout ça.
Oui, bien, Anna Arendt, c'est une philosophe juive qui avait assisté au procès d'un célèbre nazi, Adolf Eichmann, lui avait été arrêté par les services secrets juifs alors qu'il avait fui en Argentine. Il a été ramené à Jérusalem.
Quel film extraordinaire qui a été fait là-dessus.
Exact. Oui, et ils ont fait son procès. Anna Arendt...
Kinsley, je le recommande. Là. C'est extraordinaire.
Exact, c'est très, 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 très bon film.
Kinsley joue le nazi, oui.
Exact. Et Anna Arendt, elle travaille pour le New Yorker à l'époque, et elle suit le procès en temps réel. Et ce qu'elle explique dans ce procès-là, c'est que, contrairement à ce que les gens pensent, et ça lui a valu beaucoup de critiques, puisque les gens ne comprenaient pas exactement ce dont elle parlait, mais quand elle parle de la banalité du mal, c'est qu'elle explique que le fait, à un moment donné, de devenir extrêmement... de commettre des actes épouvantables, contrairement à ce qu'on peut penser, elle dit, c'est pas que ces gens-là étaient des psychopathes ou des sociopathes ou des malades mentaux, c'est que ces gens-là avaient tellement été absorbés par la machine de propagande qui était le Troisième Reich, qui, en gros, ils faisaient n'importe quoi sans réfléchir. Et puis là, elle donne dans son livre plusieurs citations de Eichmann où tu vois que le gars, en gros, dans sa tête, lui, il faisait juste sa job. Là. Puis à la limite, il comprend même pas pourquoi il est assis là pour subir un procès. Lui, dans sa tête, il faisait ce qu'on lui demandait. Puis, et là, c'est ça l'idée de la banalité du mal. C'est comment des gens peuvent en venir, même ça, c'est le conformisme à l'extrême. C'est pour ça que je le mets dans un chapitre vers la fin du livre. C'est que c'est tellement... Ça peut tellement dériver vers l'extrême que des gens peuvent poser des comportements très, 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 très dangereux, très, très extrêmes parce qu'on leur a dit que c'était ce qu'il fallait faire et que c'était dans le cadre de leur fonction. Puis c'est un peu ça l'idée. C'est dans le livre, c'est de dire, bien, il faut apprendre à se servir de son jugement, il faut apprendre à se servir de sa tête. Sinon, bien, ça peut dériver justement jusqu'à des exemples... extrêmement dangereux comme celui-ci, qui est un peu la version, justement, c'est ça, caricaturale d'une certaine manière, extrême, mais que, justement, des comportements très graves. Puis, tu sais, quand on parle de mouvance comme de contagion sociale, si tu veux, je cite des exemples qu'on a un peu oubliés dans le livre, mais par exemple, comme le fameux Tide Pod Challenge, là, où des jeunes bouffaient des trucs pour aller dans le lavage, là. Mais les fameux Tide Pod, ben je disais, ben ça, là, c'est si t'avais dit à un jeune, mange ça tout seul, il l'aurait jamais fait. Mais dans une espèce de mouvance d'entraînement où, là, c'est pas juste qu'on répète ce que les autres disent, mais on répète ce que les autres font, ben ça peut amener à des comportements extrêmement dangereux qui peuvent mettre ta vie en danger, etc. Puis les gens, puis je pense que c'est ça le point important du livre, c'est que les gens font pas ça parce qu'ils sont cons ou parce qu'ils sont stupides. Ils font ça parce que, justement, c'est un phénomène grégaire qui est très humain, ça, d'imiter les autres et de faire comme les autres pour être inclus dans le groupe, pour se sentir apprécié, pour se sentir aimé, etc. Donc, c'est tout ce que j'explique dans le livre.
Un livre qui est en vente là, t'as-tu un lancement? C'est le fun de rencontrer l'auteur, un peu comme quand Joanne Marcotte avait lancé son livre, c'est trippant, parce que une communauté de pensée, veut pas, ben on se retrouve... Bien souvent, avec des amis, on voit les gens avec qui on a milité parfois, dans le cas du Parti conservateur, tout ça, ou pas, ouais. Ou pas. Tu vises très large, évidemment, c'est un livre philosophique, là. C'est pas un livre qui est partisan du tout. C'est un livre qui est vraiment au-dessus de la mêlée. Donc, tu lances ça quand? As-tu des adresses à donner? As-tu des trucs à donner?
Oui, bien, pour l'instant...
Lever ça, c'est quand même du gros contenu, là.
Oui. Bien, le livre est disponible maintenant, là, au moment où on se parle sur Amazon. Mais si vous n'êtes pas au Canada, il est sur toutes les versions de Amazon possibles et inimaginables.
Déjà là, ce matin.
Je sais que par Internet, il y a des gens qui nous écoutent de partout. Mon ami Vincent Gelozo l'a acheté sur .com parce que lui est en Virginie. Donc, ça se trouve, c'est facile de l'avoir de partout, peu importe d'où vous nous écoutez. Donc, c'est là, ce matin. Donc, c'est même publié sur... on ne m'appelle pas souvent de même, mais c'est ça mon vrai nom, François Fournier.
Ouais.
Donc, essai sur la fabrique du conformisme.
On n'est pas habitué. Hein?
On n'est pas habitué, mais vous trouvez ça sur Amazon, en format Kindle, en format papier. Moi, je conseille le papier, c'est beaucoup plus facile à lire, mais oui. Ceux qui aiment le livre électronique, ils l'ont en livre électronique. Pour ce qui est du lancement, écoute, on aura l'occasion de s'en reparler. Il n'y a rien de confirmé pour l'instant, mais j'ai quelques petites idées. C'est sûr que les gens aiment toujours ça, rencontrer les auteurs, puis faire un petit...
Oui, puis Jean-François est à l'étranger. Donc, si Jean-François revient à un moment donné, matchez-vous, puis faites exact. Un genre de meeting. Ça serait trippant, ce serait le fun.
Non, ça serait trippant. Fait que ça va être... c'est sûr, ceux qui s'intéressent, restez à l'affût. On va sûrement avoir l'occasion de s'en reparler dans le cadre de la chronique. Mais c'est ça, je suis bien content du livre. J'ai hâte que les gens nous en redonnent des feedbacks, des commentaires. Fait que procurez-vous-le sur Amazon. C'est très facile. C'est en Prime, en plus. Fait que garde, je l'ai devant moi. Si tu le commandes maintenant, tu l'as mercredi chez vous. Fait que c'est très efficace.
Félicitations!
Merci beaucoup. Puis c'est ça, je suis très, très content du résultat final.
Bravo. Merci.
Yes,
salut, merci, bonne semaine. Bye.
Ciao, vous autres aussi.
Bravo.